Same prayer dies again. Lundi 28 juin 2021, Mount Sinai Hospital, New York. La pharmacologie aimerait tellement être une science exacte. Toutes les 8 minutes, la pompe émet un bip sourd et injecte un bolus de morphine de 2 mg en intraveineuse. Cette concentration plasmatique est minimale et efficace. David Markle ne souffre pas. Il dort, d'épuisement, dans sa chambre de soins palliatifs. Son organisme est à bout. S'il devait se réveiller, ce serait pour un dernier souffle. Jody est rentrée se reposer. Demain, Grace et Benjamin vont à l'école, mais Paul Markle est là. Il obéit à une convocation. Une situation exceptionnelle, étaient les termes du FBI. Lorsqu'il est arrivé au Mount Sinai Hospital, une officière du bureau l'a accueilli, lui a expliqué. Il a secoué la tête, froncé les sourcils. Tout en lui refusait d'appréhender la situation. On l'a conduit à l'étage qui est devenu une zone de l'hôpital placée sous surveillance militaire, dont, à l'exception d'une infirmière liée au secret, on a évacué le personnel. Paul attend. Il parcourt le dossier que lui a transmis l'équipe médicale du protocole 42. Les nouveaux scanners, les IRM qu'a subi un autre David Markle. Paul attend. Mais en voyant l'homme qui pousse la porte de la chambre suivi de 2 agents, le mot « fuck » ne sort même pas de ses lèvres. Ses jambes le lâchent et il doit s'asseoir. David regarde son frère Paul, puis l'autre David qui meurt dans ce lit. Le bip de la pompe ne rompt pas le silence entre eux. « Nous avons averti votre femme », glisse l'homme du FBI à David. « Des agents sont allés la chercher. Nous la préparons à cette... » « Laissez-la dormir, » dit David, « c'est bien comme ça. » Cette voix, l'entendre à nouveau, bouleverse Paul. Il se lève, marche vers son grand frère, le prend dans ses bras. C'est son odeur aussi, celle d'avant la maladie, et son corps dense, massif, puissant. Il le serre contre lui, recule, le regarde encore et dit une sottise. « C'est toi? C'est vraiment toi ?»« Vraiment moi, » répond le pilote. « Viens, sortons. » Les psychologues hésitent à les suivre. Un geste de David leur intime l'ordre de les laisser seuls. Les deux frères quittent la chambre de David mourant, s'installent dans un de ces canapés d'hôpital en sky gris qui ont plus de tragédies que de miracles à raconter. David ferme les yeux. La tête lui tourne. Paul, qu'est-ce qui m'est arrivé? On m'a dit un cancer du pancréas qui a été diagnostiqué en mai. Chez Paul, le médecin reprend ses esprits. Il serre le bras de son frère. David, samedi dernier, tes examens, tu te souviens? Dans le hangar, on me les a transmis tout à l'heure. David comprend. Mourir est plus intolérable encore si l'on sait quand. Il lui faut marcher. Il se lève, s'approche de la porte entrouverte. Regarde dans le lit ce corps, tellement amaigri, tellement faible. Détourne les yeux, revient s'asseoir sur le canapé couleur de pierre tombale. Il murmure comme s'il avait peur d'être entendu. « Tu penses que, là aussi, j'en ai pour si peu de temps ?»« C'est comme si on commençait la chimio et la radiothérapie le 12 ou 13 mars au lieu du 30 mai, » dit Paul rassurant, en consultant les dossiers. « Et 4 mois de traitement au lieu d'un, c'est énorme vu l'agressivité de ce cancer. » Paul, de nouveau, explique à son grand frère. La tumeur mal placée, les métastases au foie, l'infiltration jusqu'à l'intestin grêle. Il ne peut pas plus opérer qu'il n'a pu le faire avec David Marsh voici 2 mois. David June pose les mêmes questions, argumente. Paul lui donne les mêmes réponses avec les mêmes mots. De temps à autre, un « comme je te l'ai déjà dit » lui échappe. Il ne peut se résigner à admettre qu'à ce David-là, non, il n'a encore rien dit. Combien ? Demande à nouveau David. Au moins 3 mois, forcément. Plus? On va essayer un autre traitement. Tu as été ton propre cobaye. Au moins, on sait mieux ce qui ne marche pas. Paul sourit, tristement. La foi dans la médecine et les protocoles est plus forte que lui. C'est pour cela qu'il a choisi ce métier de fou, qu'il y excelle. En fait, il lui arrive de croire que c'est ce métier qu'il a choisi. Il ne perd jamais espoir. Il sait rassurer les patients parce qu'il se ment très bien à lui aussi. Mais une fois de plus, il respire mal. Un homme meurt à côté, un homme qui est David. Il voudrait pouvoir à la fois rire et pleurer. Il est perdu. « Et Jody ?» demande à nouveau David. « Elle est épuisée. Tu n'imagines pas ce qu'elle a vécu. La formule est maladroite au vu de ce qui attend David. Mais tant pis. » Le téléphone de Paul vibre. Il y jette un coup d'œil, répond à l'appel en baissant la voix. « Jody ?» C'est un minuscule jardin japonais. Une haute haie de bambou noir l'isole des ormes et des bouleaux d'un petit parc à l'anglaise. Un ruisseau coule d'une modeste cascade, sillonne entre les pierres claires jusqu'à un étang paisible où nagent des carpes. Un chemin de gravillon conduit à un court pont de bois et l'on accède à une île qui n'a de place que pour deux bancs de pierre. Ceux qui ont conçu ce jardin ont voulu qu'il soit serein, qu'il respire la vie, mais cette béatitude calculée le désigne comme le lieu des dernières promenades. Il est planté au milieu d'un centre de soins palliatifs luxueux, privilège de ceux qui ont une bonne assurance et qui voudraient croire qu'une mort zen ne sera pas tout à fait la mort. Lorsque Jody apparaît entre les bambous, accompagné d'un agent du bureau et de Paul, David la voit se figer, frappée par une foudre sans éclair ni tonnerre. Tout son corps se tend, résiste pour ne pas reculer. Son visage a maigri, s'est asséché, durci, ses yeux sont cernés, rougis, la fatigue s'inscrit sur chacun de ses traits. Enfin, soutenue par Paul, elle s'approche à pas très lents. Elle marche vers un spectre. Elle traverse le pont, s'assied sur l'autre banc, le fixe longuement, puis baisse les yeux. Paul a un geste apaisant vers son frère, s'éloigne. Ils restent assis en silence face à face de longues minutes. David finit par dire « Crois-moi, j'aurais préféré un square avec des gosses qui hurlent, tout sauf ce truc à la con. Les psys ont dû penser que c'était adapté. Franchement, je... Tais-toi. » Jody a parlé à voix basse. David obéit. Il écoute la rumeur douce de la cascade, le pépiment d'un moineau domestique. Et devant ses yeux, l'eau verte s'agite soudain du remous vif d'une carpe. Ce jardin, ce n'était peut-être pas une idée si à la con que ça. Soudain, Jody dit, et sa voix tremble, « Je n'ai pas voulu que les enfants viennent te voir à l'hôpital, à partir du moment où tu as été intubé, inconscient sous morphine. On va leur raconter que tu as été en convalescence. » Pour parler de lui tellement vivant et de l'autre qui va mourir, elle dit « tu » indistinctement. C'est sa manière de nier une réalité et d'en accepter une nouvelle. Les psys, dans les jours à venir, constateront cette attitude chez tous. David hoche la tête. Il voudrait la serrer contre lui, mais il sent qu'elle n'est pas prête. Il lit de la peur et de l'aversion. Jody n'entend ni la cascade ni l'oiseau. Ses yeux fixent les gravillons blancs, elle ne parvient pas à le regarder. « Je suis désolée, » dit-elle. « Je voudrais t'embrasser, je n'y parviens pas. » Une fois la stupeur passée, une fois posées les questions qui viennent chaque fois à tous les esprits, la première chose qu'elle a demandé à Paul, c'est « Et le cancer ?» Et quand Paul a fini par avouer, quand elle a compris que ce David d'avant, ce David surgissant de nulle part, allait peut-être à nouveau mourir, elle a senti le sang la quitter. Elle s'en veut de penser « Pourquoi es-tu revenu, David? Pourquoi? Est-ce que tout cela n'était qu'une répétition générale? Un mois de douleur pour se préparer à plus d'horreur encore? Plus de pleurs et de rage impuissante? » Elle voudrait croire que le ciel lui offre une seconde chance, mais non. Ce sera une seconde douleur, et tout ce qu'elle ressent est de la colère et de la répulsion. Elle répète, et sa voix est froide. « Pour les enfants, tu auras été en convalescence. Oui, c'est plus simple. » Elle n'ajoute pas « Je ne veux pas que les enfants enterrent leur père deux fois. » « Je vais essayer de guérir, Jody, pour Grace, pour Benjamin, pour toi. » « Oui. Et pour moi aussi, tout de même. » Elle lève les yeux. Il voudrait la faire sourire. Elle n'a la force de rien. Elle plonge dans ce regard pour le retrouver, pour chasser le désespoir qui ne la quitte plus. Il lui tend la main. Elle l'accepte. Il la presse. Elle retrouve sa chaleur, sa manière qu'il a du pouce de la caresser. « C'est vraiment toi ?» demande-t-elle enfin. Ce n'est pas une question, elle n'en a jamais douté. David ne répond pas, il la contemple avec une tendresse avide, comme si, déjà, il voulait tout retenir d'elle, comme si les jours, déjà, étaient comptés. Il ne voit pas Paul à l'entrée du jardin, à qui l'infirmière vient de glisser un mot. Paul, dont les yeux se sont voilés de tristesse. Ils n'entendent pas non plus l'ordre que passe l'officier du FBI. Le temps s'écoule et il désarme la souffrance. Une carpe saute hors de l'eau, retombe et le bruit les fait sursauter.